CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu, du comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à Tête première, ici Denis Marion. Écoutez, on a une belle émission aujourd'hui où on risque fort de parler de passion. Ça risque d'être tout à fait intéressant et j'ai des invités que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Mais avant d'aller vers le sujet, j'aurais envie de vous glisser un petit mot sur le conflit de travail qui semble vouloir durer à la ville de Sorel-Tracy entre l'école bleue et la ville, bien sûr. On a vu toutes sortes de situations se développer au cours des dernières semaines. Évidemment, un conflit, c'est jamais agréable. On s'entend, là, un conflit, c'est pas facile. L'école bleue ont bien sûr le droit, d'une part, de faire des demandes, d'autre part, de manifester et de démontrer leur insatisfaction devant éventuellement la lenteur des négociations. Mais en même temps, on s'est retrouvé devant un certain nombre de gestes peut-être un peu disgracieux qui font que l'atmosphère n'est pas très bonne actuellement. Mais bon, faudrait peut-être qu'on se rappelle tout le monde qu'à la fin, il y aura une entente et que tout le monde devra rentrer au travail et qu'il faudra peut-être s'assurer de se rendre là, tout le monde, en même temps. Ce que je vois là actuellement, c'est évidemment, la population, elle est prise à témoin. Le maire, lundi soir au conseil municipal, a parlé d'événements, d'incidents là, qui mettent en question des liens avec les bénévoles, des gens qui essaient d'offrir les activités pour les jeunes. Là. À la fin, c'est la population qui va déterminer la marge de manœuvre qu'aura le conseil municipal puis le négociateur dans ce vers quoi ils devront aller ou ils pourront aller avec l'école bleue. Et donc, je pense que c'est important que l'école bleue ne s'aliène pas la population parce que, dans le fond, dans une certaine mesure, ils vont rendre la situation encore plus difficile parce que le conflit, il est sur la place publique. Les gens voient l'impact de tout ça. Puis on va souhaiter, évidemment, pour la ville, pour la population, pour l'école bleue eux-mêmes, que tout se termine dans les meilleures conditions possibles. Écoutez, au sortir de la pandémie, on a vu beaucoup de préoccupations sur la santé, de façon générale, bien sûr, la santé mentale aussi, et on a beaucoup parlé des moyens qui nous permettaient de retrouver notre équilibre après ce qu'on a vécu tous ensemble au cours des dernières années. On a beaucoup parlé de liens avec la nature, avec le plein air, avec le sport. On a vu l'importance que ça prenait pour plusieurs d'entre nous, mais il y a d'autres expériences qui nous permettent de nous occuper de nous et de nous faire du bien à l'âme. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble de la place et de l'importance de la culture, de l'art, de la création dans nos vies et de leur impact sur notre santé. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai des invités absolument passionnés et passionnantes et qui non seulement s'intéressent à la question, mais qui y travaillent très concrètement. Alors, on poursuit avec elles après la pause.
À CJSO 101.7, les vendredis, on s'amuse comme des enfants. C'est sérieusement fou. Tous les vendredis de l'été, au retour à la maison, Jessica Hébert sera à vos côtés, s'amusera avec vous, vous proposera 1000 activités et elle donnera le coup d'envoi à vos fins de semaine avec la meilleure musique et ben de la bonne humeur. Voilà un rendez-vous sérieusement fou.
Wow.
Sérieusement fou. Une présentation de Location FGL. Développement économique Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans et vous réserve une surprise incroyable. Participez à notre concours Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu et gagnez un crédit voyage de 5 000 $. Inscrivez-vous dès maintenant sur meublesbeaulieu.ca pour tenter votre chance. Préparez-vous à vous évader vers des destinations de rêve, à découvrir de nouveaux horizons et à vivre des moments inoubliables. Ne manquez pas cette occasion unique. Rendez-vous sur meublesbeaulieu.ca et inscrivez-vous maintenant. Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu. Le tirage se fera le 22 juin.
Jusqu'au 30 juin, CJSO vous invite à participer au concours « As-tu ton logo CJSO sur ton auto? » En magasinant chez les commerces participants, on vous remettra un logo CJSO. Vous serez éligible au tirage de 5 prix de 100 $ en essence. CJSO vous invite à afficher vos couleurs en collaboration avec
le Centre holistique Nutrimax Pâté Gris, Bonbon Dila et le garage AGM Le Spécialiste.
Le tirage se fera le 4 juillet dans l'émission Valérie l'après-midi. CJSO vous souhaite bonne chance.
Tête première est une présentation de Lucier, Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Larion.
Le sujet chaud, dans le fond, c'est notre santé. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que notre santé passe aussi par l'art, par la création, par la culture? Et je vous ai dit que j'avais des invitées passionnantes. Je vous les présente tout de suite. D'abord, Juliane Tremblay, qui est la coordonnatrice culturelle à la MRC Pierre de Sorel. Bonjour, Juliane.
Bonjour, Denis.
Une deuxième occasion d'échanger avec toi depuis le début de l'émission. Odette Langlois, qui est une artiste en art visuel bien connue dans la région, originaire de Saint-Aimé, pas originaire, mais qui vit à Saint-Aimé. Donc, bonjour, Odette. Bienvenue.
Bonjour, Denis.
Nicole Mongeon-Cardin, que je découvre cette semaine grâce à l'émission. J'en suis très heureux. Elle est également artiste en art visuel. Nicole, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Martine Simard, qu'on connaît parce qu'elle est la directrice générale de l'Ardoise, qui est un organisme populaire en alphabétisation. Bonjour.
Bonjour.
Et on accueille aussi Judith Morrison, qui, elle, participe à l'Ardoise et a participé en particulier à un projet dont on va parler pendant l'émission qui s'appelle « L'art qui fait du bien ». Bonjour et bienvenue, Judith.
Bonjour, Denis.
Alors, dans un premier temps, j'ai envie de m'adresser à Juliane Tremblay de la MRC. Samedi dernier, totalement par hasard, un extraordinaire concert de musique baroque à la Maison de la musique. En discutant, on a eu l'idée de cette émission-là. On se disait que dans les temps qui courent, associer la culture et la santé, c'était peut-être quelque chose qu'il fallait faire. Juliane, pourquoi culture et santé?
En fait, le lien entre culture et santé, ça fait longtemps qu'on le fait sans nécessairement en parler. Mais c'est de plus en plus à la une de discuter de ça. Puis quand on parle de santé, c'est vraiment culture et le mieux-être des gens, autant au niveau de la santé mentale, mais aussi de problématiques qu'on peut rencontrer dans la société, que ce soit le décrochage ou autre, d'autres problématiques. Donc, c'est vraiment de voir à quel point la culture peut être dans notre boîte à outils au niveau d'une société, d'une collectivité pour avoir un développement qui fait du sens, à mon avis.
Et il y a des concepts là, qui sont élaborés là-dessus. Évidemment, ici, on parle de santé globale. Là, hein? On ne parle pas de réponse à la maladie. On parle, en fait, de ce qui fait que nous sommes en santé à tous égards, dans notre tête et dans notre corps. Est-ce que cette réflexion-là, elle est partagée? Est-ce qu'elle est, comment je pourrais dire ça, envisagée autrement, dans une certaine mesure? Qu'est-ce qui fait que la santé et la culture sont à ce point liées?
Bien, en fait, c'est un lien qui va un peu de soi. C'est comme si on pense qu'on vit dans un environnement qui est beau, on vit dans un environnement, c'est déjà ça, la culture et la santé. C'est aussi le fait que, oui, on en parle beaucoup. À Saint-Camé, il y a eu récemment un colloque qui était porteur de culture, vecteur de santé, des projets très, très intéressants avec des gens qui souffrent de syndrome post-traumatique, avec des itinérants à Montréal, mais aussi toute cette idée juste de de pouvoir s'exprimer, c'est une fenêtre, un moment dans notre vie, une petite fenêtre où on peut ressentir du bien-être. Donc, c'est beaucoup dans cette optique-là qu'on parle d'expression, culture, santé.
Et on va en parler beaucoup plus tout à l'heure, là, mais la notion de création, OK? La culture, c'est pas simplement ce qu'on regarde à la télé, lorsqu'on va au théâtre ou lorsqu'on va dans un musée ou à une exposition. C'est aussi la création, la part de création qui permet d'avoir un accès à l'art. Et cet aspect-là, il est aussi important pour notre santé.
Oui, de créer soi-même, mais aussi de voir la création de d'autres personnes aussi.
Et de comprendre.
Et de le comprendre, ça peut ouvrir... je parle toujours de cette fenêtre-là, de ce moment où on est exposé à la lecture ou à une pièce de théâtre ou à une œuvre d'art, où pendant un moment, on vit une émotion, un moment où on se sent bien, que ce soit... C'est ça, le mieux-être.
Exactement. Écoutez, on va aborder aujourd'hui, surtout parce qu'on a deux femmes artistes en art visuel, cette forme d'art-là, mais on pourrait, puis tu l'as nommé, on pourrait parler de la lecture, par exemple. Là, je pense, j'ai une petite pensée pour Mélissa Jacques qui est présente à l'émission de Valérie, qui est aussi bibliothécaire et auteur jeunesse. Donc, je pense à elle parce que ça fait aussi partie, je pense, de son expérience, cette création-là. J'ai envie qu'on aborde un peu votre expérience, toutes les deux, Odette et Nicole. Je le rappelle, Odette Langlois, elle est artiste en art contemporain, elle est à Saint-Aimé, elle a eu encore ou elle a encore des œuvres qui sont exposées à la maison, des gouverneurs. Non, pas du tout. Au centre d'art, Odette. Et Nicole Mongeon-Cardin, qui, elle aussi, est artiste en art visuel. Elle est peintre. J'ai vu de ses photos aussi. J'étais très impressionné. Là, vous avez un magnifique site Internet, Nicole.
Merci.
Moi, j'ai envie que vous nous racontiez juste un petit peu votre histoire, votre lien avec l'art, la place que ça occupe dans votre vie, la relation que vous avez avec la création. Je ne sais pas laquelle des deux qui veut amorcer l'échange, Odette?
Bien, je vais commencer. D'ailleurs, je connais Nicole aussi. Alors, moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'une vie sans culture, essayer d'imaginer ça, c'est inimaginable, je trouve. Et c'est une importance parce que la culture est partout. Elle est dans la nature, et dans les paysages, dans notre environnement, comment on décore notre milieu de vie. C'est pas seulement les œuvres d'art, les tableaux. C'est un ensemble. Et ça, je trouve que c'est important. Puis il faut commencer chez les jeunes enfants. C'est très important qu'ils soient initiés à la culture dès le jeune âge. Et il y a un très beau projet présentement. Excuse, je parle de la culture, de la Maison de la musique. Tu vas en parler tout à l'heure.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est un bon départ. Alors moi, je prêche pour ma paroisse. Je suis peintre et présentement, je fais un remplacement aux impatients. Ce sont des ateliers d'art, de création que je fais avec un groupe. Et le groupe, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais ce n'est pas écrit sur une étiquette, sur leur veston. C'est des gens comme moi. Alors, il peut y avoir des intervenants qui sont aux ateliers et je ne sais pas tout de suite qui est l'intervenant. Et ça, je trouve ça très important, qu'on est tous pareils. Je dessine en même temps qu'eux autres. J'offre des conseils quand on me le demande. Et je ne suis pas là pour faire de la dictature artistique. Je suis là pour les éveiller et pour essayer de créer.
Odette, il y a longtemps que tu peins, il y a longtemps que tu es une artiste, que ça fait partie de toi.
Oui.
C'est arrivé comment? Comment c'est arrivé que le fait que tu aies envie de t'exprimer par la peinture?
Mon père était un artiste et je me souviens, j'avais peut-être 6 ans et j'avais commencé à dessiner sur le mur de ma chambre avec la gouache de mon frère qui était plus vieux. Fait que là, il rentre dans ma chambre, puis il dit « Wow! » Je dis « Mais il manque des couleurs. Lesquelles? » Puis il est allé m'acheter les couleurs manquantes. Puis quand je raconte ça à des amis, les parents, mes amis disent « Mes parents ne m'auraient jamais laissé faire ça. » Et ça, je pense, ça a été mon coup d'envoi. L'approbation de mon père, c'était très important. Et j'ai toujours continué. Je dessinais sur des cartons. Les madames, anciennement, avaient des bas de nylon dans des sachets. Et il y avait des cartons qui tenaient le bas de nylon dans les... Puis ben, j'affichais mes dessins partout. Et jeune, déjà là, ben, j'étais tout près du Centre d'art contemporain sur Pinneuf et Sherbrooke à Montréal. Alors, je prenais l'autobus toute seule. Mes parents m'avaient dit, c'est à 139 Pinneuf. Je me rendais. Et je regardais ces choses-là. Puis c'est ça qui m'a permis d'aller dans un côté non traditionnel. Et en voyant beaucoup de peintures contemporaines, j'ai trouvé mon chemin à moi. Et j'ai fait un deck en art plastique qui m'a donné un bon coup de pouce. Puis après ça, j'ai toujours toujours, toujours peint.
Et fait beaucoup d'expositions, des installations aussi.
Beaucoup d'installations.
Tout à fait. Nicole, de votre côté, je vois dans votre dans ce que vous avez fait, vous avez deux bacs qui sont liés aux arts aussi, donc, oui. Et d'autres études. Vous êtes une artiste. Et comment cette passion-là, parce que clairement, là, avec ce qu'on voit de vos œuvres, il y a un grand espace de passion. Ça vous est venu comment, vous?
Disons que j'ai toujours eu un intérêt pour la culture et pour l'art qui s'est développé au fil des ans. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai commencé par faire des dessins, moi aussi. Ici et là, j'ai colorié dans les livres à colorier. J'ai commencé à prendre des cours de peinture, de dessin, ici et là, dans la région et autour. Et au fil des ans, l'intérêt s'est développé de plus en plus. Puis c'est là que je me suis ramassée à l'université afin d'être plus encore à l'écoute de mon intérêt et de poursuivre mon cheminement en art d'une manière encore plus précise. Alors, j'ai commencé avec un bac en art visuel et par la suite, j'ai voulu essayer de mieux comprendre tout ce qui était plastique. Alors, c'est là que je me suis inscrite en histoire de l'art et pouvoir poursuivre. Et par la suite, bien, comme je voulais aussi un petit peu vivre un peu de ces progrès-là, bien là, je me suis inscrite en animation et recherche culturelle afin de pouvoir travailler avec des groupes. Comme par exemple, présentement, je travaille avec le regroupement pour la santé des années Pierre de Sorel. Je donne des ateliers. Ce sont des personnes...
Des ateliers de peinture?
Des ateliers de peinture. Alors, ce sont des personnes de 50 ans et plus. Et dans mon cheminement, eh bien, j'ai aussi fait de la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est une action qui est posée par un artiste pour créer un pont entre l'art et le public qui mène à une réflexion vers une meilleure connaissance de soi et de son environnement et de la société. Donc, ça a été une deuxième clientèle, si on veut. Et aussi, j'ai fait des projets avec Fou de l'art, des enfants de l'école, de quatrième année au primaire, quelques groupes aussi au secondaire. Et pour varier toute cette clientèle, j'ai répondu à l'appel de projet au développement culturel et de la MRC.
De la MRC, tout à fait.
Et du ministère de la Culture et des Communications. Et là, je travaille avec une autre clientèle qui se veut la clientèle de l'ardoise. Donc, j'ai rejoint différentes clientèles et en même temps, je me rends compte que l'art rejoint, en fait, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou d'une clientèle entre les deux âges, l'art rejoint un peu tout le monde.
Écoutez, vous venez de nous lancer, après la pause, on va regarder justement ces projets-là un peu plus en détail, puis on a nos invités de l'ardoise là, qui ont participé à ce projet-là. Je trouve ça intéressant de voir que votre processus de création s'accompagne aussi d'un engagement vers des projets avec d'autres personnes à l'extérieur, dont celui avec l'ardoise pour ce qui est de Nicole et la participation au projet des impatients de Sorel-Tracy. Donc, après la pause, on va regarder ça. C'est intéressant de voir que mon idée de la création, c'est un processus très solitaire dans une certaine mesure. Puis ce que vous nous dites, justement, c'est qu'au contraire, c'est une occasion d'aller vers d'autres personnes et de contribuer à quelque chose de plus large que soi-même. Je trouve ça très intéressant. On poursuit là-dessus après la pause que voici.
Lorsque l'on parle de droit en matière de santé et de services sociaux, le Comité des usagers de Pierre de Sorel veille sur nous. Sa mission, nous renseigner quant à nos droits et nos obligations tout en défendant nos intérêts. Saviez-vous que, pour susciter notre confiance face au système de santé, la loi prévoit 12 droits tels que le droit à l'hébergement, de recevoir des services en anglais, d'avoir accès à son dossier et à la confidentialité de celui-ci ou encore de porter plainte? Le Comité des usagers Pierre de Sorel nous permet d'exprimer nos insatisfactions. Pour plus d'informations, composez le 450-746-6008. Pour offrir un bon retour à la maison, ben faut de l'excellente musique, faut des informations aussi, puis un petit peu de niaiserie. Mon nom est Valérie Ferland, je suis en compagnie de Sylvain Rochon du lundi au jeudi dès 15h30 pour Valérie l'après-midi
On espère que vous allez être là.
Le beau temps arrive et c'est l'occasion idéale de venir réseauter avec la communauté d'affaires de Sorel-Tracy. La Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy tiendra son premier 5 à 7 de l'été en collaboration avec la Société d'agriculture de Richelieu à l'Expo Agricole le 8 juin prochain. Soyez des nôtres à partir de 17h sur le site de l'Expo Agricole au 216 rue Victoria à Sorel-Tracy. Rendez-vous sur le www.ccist.ca ou téléphonez au 450-742-0018 pour vous procurer votre billet. Chansonnier, accès au site et deux consommations incluses. On se voit le 8 juin.
Parce qu'en perçant dans le mur, t'as aussi fait un trou dans le chauffe-eau. Parce que des grêlons de la taille d'une balle de baseball ont passé ta maison au bat. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience. Parce que ton arbre que 100 ans a pris 2 secondes pour tomber sur ta maison. Parce qu'un voleur contorsionniste s'est introduit par la petite fenêtre du sous-sol. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience.
Allons ouvrir la boîte à musique. CJSO saura vous surprendre. Les samedis et dimanches, de 9h à 11h, Luc Deloncourt vous convie à un fascinant rendez-vous musical. La boîte à musique. CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu, du comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on poursuit cette rencontre avec des femmes passionnées, des femmes de culture, de création, des femmes qui nous partagent en plus aujourd'hui cet aspect-là de leur vie, et que je remercie. Juste avant la pause, on a parlé des projets auxquels Nicole et Odette sont associées. Martine Simard, directrice de l'Ardoise, j'ai lu sur votre page Facebook, votre site Internet, une phrase qui m'a beaucoup touché. C'est écrit « Par le biais d'activités et de projets basés sur la réalité et les besoins des personnes peu alphabétisées, notre approche leur permet de reprendre le pouvoir sur leur vie et favorise la participation citoyenne. » J'ai trouvé que c'était très, très bien écrit et très bien dit. C'est un magnifique défi à relever pour la Doire avec votre groupe et avec les gens qui y participent. Alors, qu'est-ce que vient faire le projet L'Art qui fait du bien dans votre travail?
Mais en fait, à l'Ardoise, on travaille avec des personnes qui sont peu alphabétisées, pour qui, pour toutes sortes de raisons, le système scolaire n'a pas fonctionné. Ils viennent de milieux peut-être un peu plus défavorisés et tout ça. Puis, c'est des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité financière, entre autres. Puis, on veut absolument, nous, leur faire vivre des expériences positives. À l'Ardoise, on fait de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, du calcul, un outil d'expression sociale. Puis c'est important, ça, de souligner ce qu'on veut dire par un outil d'expression sociale. Ça englobe tout plein d'affaires. Mais quand on est des personnes peu alphabétisées, on vit plusieurs formes d'exclusion. On vit de l'exclusion sociale, on vit de l'exclusion numérique, on vit de l'exclusion démocratique, mais aussi de l'exclusion culturelle. C'est important à l'Ardoise de faire des projets, surtout en partenariat, pour un peu démocratiser l'accès à la culture. T'sais. C'est pas super accessible pour tout le monde. Des fois, il y a des expositions qui coûtent cher, des spectacles, les billets, ça coûte cher. C'est des personnes... C'est pas les premières dépenses là, que ces personnes-là vont faire leur épicerie, vont payer leur loyer là, avant d'aller voir des spectacles. Ou bon. Puis, ben là, on ne se le cachera pas, on est un organisme communautaire. Dans nos financements, on est assez serré là, dans nos budgets. Fait que quand on a l'occasion, quand on a des personnes comme Nicole qui nous approchent pour faire des projets, ben nous, on veut le rendre accessible à nos participants.
Et là, ce projet-là, il est dans le cadre de la politique culturelle de la MRC. Donc, vous avez déposé ensemble un projet, c'est ce que je comprends. Là, vous venez de dire, Martine, que Nicole vous a proposé le projet.
Oui.
Nicole, pourquoi on va proposer un projet à l'Ardoise?
Eh bien, le but de cette activité, c'était de faire une activité de groupe afin de briser l'isolement. Et aussi, c'est une façon de les intégrer dans la société parce que le vendredi 9 juin, il va y avoir une exposition des tableaux que les participants ont réalisés. Demain, oui, et samedi. Et il va y avoir un vernissage. Donc, c'est une manière pour les participants... c'est une expression personnelle qui va être un petit peu diffusée par le vernissage et l'exposition de ces tableaux-là à la Maison des gouverneurs.
Quel rôle vous avez joué là-dedans? Parce que vous êtes, évidemment, vous êtes une artiste, donc vous avez travaillé avec des participantes comme Judith, qu'on va entendre dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec ces personnes-là?
OK. Alors, moi, j'ai proposé de faire deux ateliers avec deux groupes différents, des ateliers de peinture. Et comme le titre était « Un art qui fait du bien », eh bien, j'ai essayé de leur faire explorer la créativité par une présence gestuelle, par la spontanéité, par un travail d'improvisation, une libre expression personnelle, une place au rendu de l'émotion. Donc, c'était une peinture à l'image de chacun des participants. Et tout ça, ça devait être une expérience positive pour les participants et mettre en valeur aussi leur autonomie et leur estime de soi.
Judith, je m'adresse à vous. Vous avez participé à cette activité-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Vous avez trouvé ça intéressant de participer à ça?
C'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de découvrir des petits talents que je ne savais pas, parmi les couleurs, puis parmi les formes. Puis c'est de voir travailler les couleurs ensemble. On a bien aimé ça. Puis on avait un bon professeur aussi.
Vous étiez nombreuses? Il y avait beaucoup de monde avec vous?
Le premier groupe, on était peut-être 6-7. Deuxième groupe, à peu près aussi. Puis c'était fun pour nous autres de montrer qu'on avait capable, même si on est... qu'on n'a pas le moyen d'acheter la peinture ou le moyen d'aller, mais tu sais, de montrer que... Puis d'avoir la chance de montrer aux gens que même
ça,
si...
Ça vous a fait quoi de rencontrer une artiste comme Nicole, par exemple, de voir comment elle interagissait avec vous, ce qu'elle vous a proposé? Dites que c'était un bon prof?
Oui, c'était intéressant parce qu'elle a pris le temps, tu sais, de nous expliquer comme il faut, puis d'aller nous chercher, dans le fond, nous autres, le talent qu'on avait, puis qu'on avait peur d'imprimer. Au début, on faisait des dessins d'enfants. On disait, oh, ben non, mais tu sais, elle a continué pareil. Elle disait, comment qu'on a vu.
Et vous avez appris en cours de route à exploiter ce talent-là?
Ouais,
vous avez eu le goût de le faire aussi?
Ben oui, on a tellement eu le goût qu'on avait le goût d'avoir des cours.
J'aimerais ajouter quelque chose en fait. Les ateliers qu'on offre à l'Ardoise ou quand on fait des projets particuliers comme ça avec des partenariats, c'est toujours offert sur une base volontaire aux participantes et aux participants. Puis l'idée de départ, c'était de faire un groupe, hein, Nicole? Puis finalement, la majorité des participants ont voulu...
Plus de succès que prévu?
Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a fait deux groupes, finalement, là, pour répondre aux besoins de chacun des participants qui voulaient contribuer à ce projet-là. Puis c'est Juliane, je pense, qui l'a nommé tantôt, là, t'sais, l'art pour s'exprimer. Les personnes qui viennent à l'Ardoise ont très, très peu d'occasions de s'exprimer, ont très peu de moyens de s'exprimer. Puis, ben, on arrivait à les faire s'exprimer d'une manière différente avec ces ateliers-là, avec Nicole. Puis, c'est un succès.
Et vous jugez que ça a été une expérience réussie, là, c'est ce que je comprends.
Oui.
C'est fun, allez-y, Judith.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde, c'était différent, mais pas on en regardait par un œil différent, on voyait pas la même chose. Moi, mon tableau, au début, ça présentait juste une grosse tache bleue. Mais là, puis je le présentais à du monde de chez nous, ils voyaient d'autres choses, ils voyaient un œil que moi, je le voyais pas. Puis c'était saoul, dans le fond, puis on avait été aller voir son premier épousson aux Maisons des gouverneurs. Puis c'est là qu'on a découvert, ah, c'est fun, c'est intéressant.
Vous êtes allé voir l'exposition de Nicole à la Maison des gouverneurs, c'est intéressant.
Puis on a su qu'elle venait, on était toutes contentes de le connaître. Puis là, ben je vois l'œuvre différemment à ce stade d'un autre tableau. C'était, pour moi, c'était la peinture et stress, je trouvais pas ça intéressant, mais là, le fait qu'on a fait un peu, puis je l'ai fait, je le verrai plus dans la même façon, puis c'est fun de se laisser aller avec les peintures, puis sans avoir un but précis. Là, moi, je suis pas très bonne en peinture, mais tu sais, avoir un dessin, j'aurais pas capable, un tableau, puis essayer, mais là, ça venait naturellement, on le laissait aller... naturellement. C'est bon pour le moral aussi, là. C'est bon voilà. Pour...
Excellent. C'est ça. C'est excellent. C'est très bien, très bien dit, oui, vraiment. Effectivement, Juliane.
Mais en fait, Judith ouvre exactement... En fait, Judith est l'exemple de ce que j'essayais de dire au début, c'est-à-dire c'est cette, dans tout son cheminement, ces ateliers-là, c'est une fenêtre. C'est un moment où elle a appris des choses, c'est un moment de bien-être, c'est un moment de pouvoir s'exprimer, mais d'aussi apprendre que la culture, c'est aussi accessible parce qu'on peut aller visiter des expositions en art contemporain, puis s'inventer des histoires, puis regarder, puis discuter avec les gens, puis voir autre chose, puis voir des avoir des émotions. Donc, Judith, je pense qu'à travers cette expérience-là, non seulement vous avez eu la chance de vous exprimer, mais aussi d'apprendre que l'art... Bien, en fait, ça peut nous amener plein de choses.
Ça nous amène comment qu'on vit aussi le moment présent. T'sais, il n'avait que c'était la peinture, vraiment les couleurs foncées, il n'avait. Mais t'sais, c'était de laisser aller le moment présent. T'sais, c'était vraiment intéressant de nous laisser aller avec la peinture.
Là, on est vraiment en train de parler du processus de création. Je trouve ça très bien le fun que vous nous le présentiez, Judith, de cette façon-là. C'est pas simplement le regard sur l'art. Vous avez vu l'exposition de Nicole, vous avez aimé ça, vous avez trouvé ça intéressant, mais vous avez vécu comme artiste, finalement.
Ben oui, hein?
Vous avez
eu
un moment de création.
On avait très hâte, puis on est très satisfait les beaux tableaux que tout le monde y a fait. C'est différent de tout le monde, mais ça nous présente nous autres. Moi, ça me présentait moi, puis j'étais bien contente.
Nicole, vous retirez quoi de cette expérience-là, vous, de votre côté, comme artiste, mais en lien avec ce que vous ont fait vivre les gens avec qui vous avez fait l'atelier?
Oui, en fait, c'est comme je disais tantôt, l'art n'est pas nécessairement réservé seulement aux personnes qui ont fait des études dans ce sens-là, mais vraiment, la créativité, elle est là, elle existe dans chacun de nous. Il s'agit simplement d'avoir le désir de l'explorer et d'être ouvert à tout ce qui nous entoure. En fait, c'est l'émotion, un petit peu un rendu de l'émotion, et c'est un petit peu un moi intérieur qui simplement doit se manifester par un moyen de communication qui est l'art en peinture, ou que ça soit aussi en peinture, en sculpture ou en dessin ou en autre discipline artistique. Il s'agit simplement de s'ouvrir et d'être à l'écoute de son moi intérieur pour utiliser les outils que l'on préfère pour faire une activité créative.
Les œuvres sont une invitation, puis je reviens à ce que disait Judith, c'est une invitation aussi à se découvrir et à découvrir ce qu'il y a derrière l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre n'est pas terminée, n'est pas quelque chose de terminé, mais quelque chose en mouvement, parce que, évidemment, la façon dont les gens voient une œuvre est tout évidemment différente d'une personne à l'autre, et ça fait partie d'un mouvement intéressant là, auquel vous contribuez à ce moment-là.
Exact. Alors, l'artiste travaille dans son atelier, réalise son tableau, il lui appartient. Par après, l'artiste diffuse son tableau comme demain et après-demain. Les tableaux des participants vont être diffusés à la Maison des gouverneurs. Et là, à ce moment-là, ça appartient au spectateur. Donc, le tableau en soi, il est comme un intermédiaire entre l'artiste et le spectateur. Alors, simplement, l'artiste voit son tableau d'une façon et le spectateur peut voir le tableau...
autrement.
Autrement, d'une autre façon.
Une autre dimension.
Et chaque participant...
Lié à sa propre vie.
Exact.
Écoutez, après la pause, on va poursuivre avec Odette Langlois, qui, elle, a eu une expérience avec les impatients. Odette, tu as commencé à nous en parler tout à l'heure. On va aller un petit peu plus loin avec ça. Alors, on se retrouve après la pause avec Odette et les impatients.
développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans et vous réserve une surprise incroyable. Participez à notre concours Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu et gagnez un crédit voyage de 5 000 $. Inscrivez-vous dès maintenant sur meublesbeaulieu.ca pour tenter votre chance. Préparez-vous à vous évader vers des destinations de rêve, à découvrir de nouveaux horizons et à vivre des moments inoubliables. Ne manquez pas cette occasion unique. Rendez-vous sur meublesbeaulieu.ca et inscrivez-vous maintenant. Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu. Le tirage se fera le 22 juin.
Jusqu'au 30 juin, CJSO vous invite à participer au concours « As-tu ton logo CJSO sur ton auto? » En magasinant chez les commerces participants, on vous remettra un logo CJSO. Vous serez éligible au tirage de 5 prix de 100 $ en essence. CJSO vous invite à afficher vos couleurs en collaboration avec
la bijouterie diamantaire Kittner, le garage Christian Bernard, le centre orthopédique et de stomie de Sorel et Daniel Suspension.
Le tirage se fera le 4 juillet dans l'émission Valérie l'après-midi. CJSO vous souhaite bonne chance.
Si quelqu'un vous dit qu'un Silverado avec un moteur 2,7 litres turbo, c'est plate, ben vous y répondrez que choisir un camion qui tire en masse puis qui consomme moins d'essence qu'un gros V8, c'est pas être plate, c'est être plus fin que les autres. Louez le Chevrolet Silverado 1500 Custom pour l'équivalent de 159 $ à la semaine pendant 24 mois chez votre concessionnaire Chevrolet. Valeur au détail de 61 551 $, versement initial de 2 500 $, 52 paiements de 319 $ et 20 sous du kilomètre après 32 000 km.
Tête première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu, du comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors écoutez, on vient d'entendre l'expression d'une expérience très riche. Merci Judith, merci aux gens de l'Ardoise, merci Nicole. Et là, on va se tourner vers Odette Langlois. Qui, elle, a une expérience avec les impatients de Sorel-Tracy. Peut-être nous expliquer un peu ce qu'est les impatients, ce qu'ils sont, et ton rôle, on peut revenir, okay. Mais peut-être au départ, qu'est-ce que c'est les impatients de Sorel-Tracy?
Les impatients, la maison mère est sur la rue Sherbrooke, l'église du Bon Pasteur. Malheureusement, ça a passé au feu dernièrement.
À Montréal encore.
Mais ça fait plusieurs années que ça existe. Ça a été parti par Mme Palardy et Clémence Desrochers, qui était le porte-parole. Et chaque année, ils font une exposition de la vente des tableaux, mais ce n'est pas seulement la vente des tableaux des impatients, mais il peut y avoir des artistes, des impatients, et qui est qui, on ne sait pas. Fait que c'est ça qui est le fun de voir que tout se mélange ensemble.
Mais qui sont les impatients? Qui sont les gens qui participent à ces ateliers?
C'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et ils se regroupent une fois par semaine à l'atelier qui se tient à l'école Sacré-Cœur. Et on a 2 heures de création à faire ensemble. Et moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que des fois, j'arrive avec quelque chose, je leur dis quelque chose, mais eux ont leur écriture à eux. Puis c'est ça, on peut être 10, 6, 5, ça ne sera jamais la même chose. Et c'est là que je trouve qu'il est intéressant, quand on regarde tout le monde, on comprend le principe de création. Puis ce que je trouvais, Judith, que tu as dit tout à l'heure, je trouve ça extraordinaire, parce qu'il y en a des fois qui sont comme devant le papier, puis, mais une fois qu'ils se mettent à l'action, la création coule. Et ce que je trouve intéressant, ces ateliers-là, des impatients, c'est qu'on se regroupe et chaque participant rencontre l'autre, ils sont devenus un cercle d'amis, ça rit, ça écoute de la musique, il y a un rappeur dans le groupe...
C'est un rappeur.
Ah oui, okay. Un jeune que je n'aimerais pas, mais que j'aime beaucoup, puis qui va nous quitter, ça va dans la région de Joliette. Mais je trouve ça très intéressant, cette dynamique-là.
Qu'est-ce que c'est quand tu arrives, ils sont devant toi, tu donnes un cours, entre guillemets,
non,
ou tu donnes un atelier?
Non, je ne donne pas, c'est pas académique du tout. C'est comme la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de la technique de la mousse à barbe. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il y en avait une qui connaissait bien cette technique-là. Oh, ben, j'ai dit, tiens, toi, la semaine prochaine, c'est toi qui fais l'atelier. Fait que là, j'avais tout acheté le matériel, j'ai regardé sur Internet. Et ben, tout le monde a participé à cette activité-là, de faire des tableaux avec de la mousse à barbe et de la peinture, de la teinture alimentaire. Et bon. Et après ça,
il n'y a pas de limite à la création, Odette.
Pas du tout, pas du tout. Et la semaine prochaine, ben, on fait un appelling. Il y en a qui ne voulaient pas participer. Il y en a trois qui veulent participer. Alors, on va faire des grands formats avec nos pieds, de la peinture et tout. Fait que ça, je trouve ça. Et tout le monde est libre. Il y en a qui veulent faire des mandalas ou il y en a qui veulent faire une reproduction d'une photo. C'est la liberté.
Et tu les accompagnes?
Je les accompagne, je les écoute. Puis eux parlent beaucoup entre eux autres.
C'est des petits trucs que tu leur passes?
De temps en temps, je passe. Puis tu sais, là, ils disent, comment je préfère ça? Fait que là, au début, je disais, comment tu penses? Là, me regardez si je l'ai demandé.
J'ai une question.
C'est gênant. Je suis, moi, pour te dire comment faire. Je peux dire ce qui est de bon à date. Puis, tu sais, je trouve, là, tu t'en vas, c'est aéré, il y a une légèreté dans ce que tu fais. Alors, c'est un peu comme ça que je procède, mais je ne suis pas un professeur. Je ne suis pas une ergothérapeute. Comment on dit? Art-thérapie. Je ne fais pas de l'art-thérapie. Je suis une artiste qui participe aux ateliers et qui... Le groupe, finalement, s'anime par lui-même. Oh. On arrive, puis tout se fait automatiquement.
Odette, depuis tout à l'heure, on a parlé beaucoup de ce que ça pouvait représenter pour les gens qui participent aux ateliers que Nicole et que toi, tu fais. Mm. Toi, tu en retires quoi? Toi, est-ce que ça contribue à ton mieux-être à toi?
Je vais parler un peu de mon intimité. La maladie mentale fait partie de ma vie. J'ai côtoyé dans ma famille beaucoup de personnes qui souffrent de maladies mentales. Et c'est drôle, les impatients, ça m'a toujours intéressée. Puis j'ai eu l'offre de remplacement aux impatients. Ah, j'ai dit oui. Puis là, je trouve le fait d'être là, c'est comme si je redonnais à un organisme qui s'occupe de la santé mentale. Mes enfants et mon ex ont eu cette expérience-là d'aide. C'était de l'ergothérapie. Puis là, je me dis, ben là, c'est à mon tour à donner à d'autres. Puis ça m'a... J'ai pas compris tout de suite sur le coup, mais là, c'est ça qui m'enflamme d'être la petite lueur, peut-être, de créativité dans leur vie. Mais ils en ont beaucoup, eux.
Toutes les deux, est-ce que ça a un impact sur votre création comme artiste? Est-ce que vous, en vous nourrissant de ces relations-là avec des gens qui sont passionnés et qui sont très intéressés, est-ce que ça a un impact sur votre création?
Moi, ça a un impact sur mes sentiments, moi. Peut-être pas sur ma création, mais quand je ressors de là, je trouve qu'ils sont contents, puis moi aussi, je suis très contente. Ça m'apporte énormément. Puis j'espère que j'apporte aussi à eux, mais c'est ça.
Nicole?
Bien, je dirais que... Les participants ont exprimé ce qu'ils ressentaient, un peu ce que moi je fais quand je fais un tableau. Alors, je travaille l'abstraction, alors je m'inspire du réel, mais c'est transmis d'une façon qui n'est pas figurative. En fait, l'aspect figuratif reste dans la mémoire et puis c'est transposé d'une manière abstraite. Donc, c'est créatif, mais en même temps, ces personnes-là aussi ont fait en sorte de travailler d'une manière créative et en laissant transposer ce qu'ils ressentaient sur leurs émotions, leurs sentiments, plutôt que d'arriver à essayer de faire quelque chose qui soit près de la réalité.
Je regardais du coin de l'œil Juliane Tremblay, qui est la coordonnatrice culturelle à la MRC, qui est donc responsable de la politique culturelle, et je te voyais sourire devant ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Tu réagis comment à ces aspects très concrets de la politique culturelle?
En fait, moi, c'est quelque chose, j'en parlais avec Martine tantôt, c'est vraiment quelque chose, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là du mieux-être, de la culture. Puis je pense qu'ici, autour de la table, on le sent bien que la culture, l'art, ça peut être, oui, il y a une facette art-thérapie qui est vraiment très, très importante. Mais aussi, l'expérience de Judith ne va pas dans la direction de l'art-thérapie. Tu sais, c'est plus dans cette direction de mieux-être dans la vie. On a d'autres beaux exemples, si je peux me permettre.
Oui, vas-y, gêne-toi pas.
Juste pour vous donner un exemple, à la Maison de la musique, ils ont parti cette année un projet qui s'appelle Systema. Sistema, c'est parti dans les années 75, en 1975, il faut que je change de siècle, au Venezuela. Puis c'était pour les enfants dans des milieux défavorisés. On leur donnait un instrument de musique pour apporter quelque chose de plus dans leur vie. Alors, Rachel Doyon, à la Maison de la musique, a parti un Sistema ici à Sorel, au niveau primaire.
Avec Alexandre Etier.
Avec Alexandre Etier. Et en fait, moi, j'ai fait mon secondaire en danse classique. Donc, l'idée de faire autre chose dans ces études, ça l'apporte vraiment beaucoup à ton parcours, à ton cheminement scolaire. Il faut savoir, Sistema, c'est des enfants qui apprennent la musique, c'est des enfants qui apprennent la chorale, mais c'est aussi des enfants qui ont une collation, qui font de l'aide aux devoirs, que c'est inscrit dans leur cursus scolaire, ce qui amène à une fierté, une grande fierté. Ça, c'est pas rien, ça, la fierté. La fierté, le sentiment d'appartenance, de pouvoir s'exprimer. Donc, des projets comme ça, c'est vraiment vers ça, je trouve que c'est très important dans notre société pour développer le mieux-être, puis de vivre un endroit où il fait bon vivre. Bien, la culture, comme disait Odette, c'est partout, puis il faut en prendre soin.
Puis, on a parlé de la Maison de la musique avec Sistema, mais la Maison de la musique, depuis très longtemps, offre également des concerts dans les...
Vas-y donc, avec la SANS, qui est la Société pour les arts en milieu de santé. Donc, d'offrir dans des CHSLD, mais aussi dans des centres hospitaliers de la musique pour les gens qui y séjournent. Donc, c'est de montrer aussi cette fenêtre de mieux-être quand la culture... entre quelque part.
J'aime beaucoup l'évolution de notre discussion. À toutes fins utiles, on n'a pas beaucoup parlé de santé au sens où on l'entend traditionnellement, mais moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment parlé de santé. On a parlé de mieux-être. Et je pense que c'est à ça qu'on devrait aspirer quand on parle de santé, c'est-à-dire se sentir bien avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est capable d'exprimer. Je parlais d'équilibre au tout début de l'émission. Je pense qu'après la pandémie, on a tous besoin de retrouver un certain équilibre. L'expression la réflexion puis les actions surtout que vous avez posées vont dans ce sens-là. Et donc, si on pose la question en conclusion, est-ce qu'il y a un lien entre l'art, la culture, la création et la santé? Ça va être difficile de répondre non, je pense, parce que vous avez pas mal prouvé que c'est le cas. Martine, est-ce que cette expérience-là, c'était une première pour l'ardoise d'aller dans cette direction-là, d'allier de culture, de peinture?
Mais moi, ça fait 5 ans là, que je suis à l'ardoise. Oui, c'est la première fois qu'on embarquait tête première comme ça, dans un projet.
J'aime la référence.
On peut faire en partenariat. On est souvent approchés. Des fois, ça ne rentre pas tout à fait là, dans nos objectifs, mais dans ce cas-ci, tout était bien aligné là, pour que ça fonctionne. On a dit oui, sans hésiter.
C'est très intéressant. Écoutez, vous savez, des fois, on se demande un peu quand le monde municipal fait des programmes. Vous savez, il y a des trucs avec des gros mots là, comme politique culturelle, de lien avec le ministère de la Culture. On se demande où va l'argent, à quoi sert l'argent qu'on... C'est nos taxes hein, qui font en sorte que ces projets-là existent. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tellement fait la preuve de la qualité de cette politique culturelle-là à la MRC, de ce que ça peut signifier de façon très concrète pour des gens comme Judith, mais aussi pour Nicole et pour Odette et pour d'autres personnes. Et je trouve ça vraiment fascinant qu'on ait été capable aujourd'hui d'aller vers quelque chose de très concret. Je pense que les gens s'attendent quelque part de nos élus municipaux que les décisions qu'ils prennent se traduisent par des actions de ce type-là. Je trouve ça très intéressant. Je vous invite à nouveau à aller à la Maison des gouverneurs vendredi ou samedi pour voir les œuvres des participantes au projet L'art qui fait du bien, je ne devrais pas oublier le nom. Et également sur le site internet de l'ardoise, vous pouvez aussi voir les œuvres. Aujourd'hui, on s'est exprimé et on s'est exprimé aussi à la radio. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.